Et puis on va prier, si vous le voulez bien, avant d'entamer ces moments. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ce culte d'adoration qui, nous l'espérons, Seigneur, a été agréé de ta part. Seigneur notre Dieu, nous voulons maintenant nous arrêter quelque peu pour réfléchir à propos de ce que tu nous as laissé comme héritage, ta parole. Ta parole qui est là comme une boussole qui nous montre le chemin. Alors Seigneur, ce matin nous te demandons de nous guider, de nous interpeller, de continuer à nous façonner, de continuer à nous transformer par ta parole vivante, Seigneur. Nous nous attendons à toi et nous attendons, Seigneur, à la guidance de ton esprit. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Un petit garçon tournicotait autour d'un étalage de fruits lorsque le commerçant s'approcha de lui et lui posa cette question. « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu essayes de voler une pomme ?» Et le petit garçon de répondre candidement « Non, j'essaye de ne pas la voler. » Et nous l'aurons compris à travers cette petite histoire, à travers cette petite illustration. J'aimerais ce matin que nous réfléchissions à propos de la tentation. La tentation. Ça vient d'un mot grec, peirasmos, qui peut être traduit par épreuve ou bien par tentation. C'est le fait d'être incité à faire le mal. Il est aussi traduit par essai. C'est donc un essai de la part de l'adversaire pour tenter de nous faire tomber. Alors la tentation, elle nous assaille de l'extérieur, d'une part. Elle vient du diable qui nous pousse continuellement à faire le mal. Elle vient aussi du monde qui, de par ses multiples attraits, essaie de nous écarter, de nous détourner, de nous égarer de Dieu. Mais elle vient aussi de notre propre chair. Ainsi donc, Dieu ne nous tente pas, nous le savons. La tentation n'est pas induite par Dieu. Et on peut rappeler un verset que nous trouvons dans l'épître de Jacques au chapitre 1er, versets 13 à 15. Jacques chapitre 1er, versets 13 à 15, qui confirme cette réalité, cette vérité finalement. Jacques chapitre 1, versets 13 à 15, où il nous est dit ceci. Bien que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché étant consommé, produit la mort. Chacun est tenté quand il est attiré ou séduit par sa propre convoitise. Alors le verbe attirer, les verbes attirer et séduire ont tous les deux trait au vocabulaire de la chasse ou de la pêche. Ils consistent à placer un appât dans un piège ou sur un hameçon. Alors l'animal ou le poisson s'approche et attiré par sa nature, attiré par ses désirs naturels, il va emporter l'appât, mais en emportant l'appât, il va se prendre soit dans le piège, soit dans l'hameçon et il va mourir. Et le diable, c'est pareil avec lui. Il essaye continuellement de nous appâter par toute une série de plaisirs qui plaisent, par lesquels notre nature humaine, notre vieille nature, est attirée continuellement. Alors si nous écoutons cette vieille nature, si nous cédons à cette vieille nature, à la chair, eh bien on va désobéir. Par contre, si nous écoutons la nouvelle nature qui, elle, n'est pas attirée par les appâts, qui, elle, n'est pas attirée par la chair, on va refuser et on obéira à Dieu. C'est le problème lié à la tentation, le choix à opérer lorsque nous sommes tentés. Et on va lire ensemble, si vous voulez bien, l'épisode de Matthieu chapitre 4 où l'on trouve la tentation que Jésus a eue lorsqu'il s'est retrouvé dans le désert tout seul, confronté aux attaques de Satan. Alors le contexte, ça fait suite au baptême de Jésus auquel Aurélien a fait allusion tout à l'heure. Jésus se retrouve dans les eaux du Jourdain. Jean-Baptiste le fait passer par les eaux du baptême. Et puis, juste avant de commencer son ministère terrestre, Jésus va rechercher la solitude du désert pour pouvoir y méditer. Et c'est dans ce cadre-là que s'affiche la lecture que nous allons faire maintenant dans Matthieu, au chapitre 4, versets 1 à 11. Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Verset 5, « Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Et le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent après, auprès de Jésus, et le servirent. Alors la première question qui nous vient à l'esprit pour aborder le texte de façon peut-être un peu plus pratique, mais c'est la suivante, comment est-ce que Dieu nous tente? Il faut corriger tout de suite ça. Vous l'avez compris. Comment est-ce que le diable nous tente? Comment Satan nous tente? Eh bien, il est intéressant de remarquer la manière dont il a tenté Jésus, parce que sa stratégie, finalement, elle n'a pas changé. Elle est toujours la même. La manière dont il agit, sa tactique, est toujours pareille. La première tentation du diable, que nous découvrons ici dans le texte que nous avons lu, au verset 3, c'est « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Donc, le diable essaye de semer le doute dans l'esprit de Jésus, comme il essaie encore aujourd'hui de semer le doute dans notre esprit. Jésus, affaibli par son jeûne prolongé, ressent, de façon légitime, peut-on le dire, la faim, les affres de la faim. Et le diable va profiter de ces circonstances pour tenter de semer le doute dans l'esprit de Jésus. Le doute en rapport avec sa filiation divine. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain. Satan n'a pas changé. Déjà dans le jardin d'Éden, on se souvient, il a remis en question la parole de Dieu. Il a commencé à faire douter Adam et Ève par rapport à la parole de Dieu, tentant de semer en eux aussi le doute. Est-ce que Dieu vous a réellement dit que vous ne pouviez pas manger des fruits de cet arbre qui se trouve au milieu du jardin? Il recommence ici avec Jésus. Et c'est comme ça qu'il agit aussi avec nous lorsqu'il tente, lorsqu'il essaie de nous tenter. Mais est-ce que Dieu a réellement dit ceci? Est-ce que tu crois que ce que Dieu demande là, c'est encore d'actualité? Est-ce que tu crois que Dieu interdit vraiment, réellement, de faire ceci ou de faire cela? Il essaye de semer le doute en nous. Ouais, mais ce qui est écrit là, tu crois que c'est encore valable? C'était bon pour il y a longtemps. Aujourd'hui, on a évolué. Il n'y a plus personne qui respecte ça. On ne fait plus ça. C'est plus pareil. Le diable essaye de cette manière de semer le doute dans notre esprit en tentant de remettre en cause l'authenticité, la véracité de la parole de Dieu, d'une part, et en essayant aussi de nous troubler, de semer le doute dans notre esprit. Jésus vient d'entendre une voix céleste l'appeler fils, et Satan lui demande de vérifier en transformant des pierres en pain. Tu as faim ? Mais quoi de plus normal ? C'est naturel d'avoir faim. Mange ! Oh, on sait bien que Jésus serait tout à fait capable de faire ce miracle. N'avait-il pas dit auparavant que de pierre, il était capable de susciter une descendance à Abraham ? Et puis, combien de foules n'a-t-il pas nourri de façon miraculeuse en multipliant des pains ? Jésus est bien sûr capable de faire ça, mais il ne veut pas utiliser ses pouvoirs, ses prérogatives divines à des fins personnelles. Ça irait à l'encontre de sa mission, ça le détournerait de sa mission initiale. Le diable tente de semer en nous ainsi le doute. Il essaye de nous faire croire que nos désirs naturels, nos besoins naturels, quels qu'ils soient, sont licites, sont légitimes. Le diable ne cesse de nous répéter, comme il l'a fait pour Jésus, « Tu as faim ? C'est normal. Mange. » Oh, il ne va certainement pas nous demander de transformer des pierres en pain, mais nous pouvons avoir beaucoup d'autres appétits. « Tu as faim ? » Nous pouvons l'entendre nous dire « Tu as faim d'argent ? » C'est normal. Il te faut vivre confortablement. Tu vis en Occident. Tu es au XXIe siècle. Même s'il faut que tu fasses, que tu commettes quelques vols, quelques rapines, quelques délits, quelques fraudes. Même s'il te faut vivre de façon malhonnête, ben, tu vois tes copains là, ou tes amis, ils se posent pas de questions. Ils n'ont pas de scrupules. Pourquoi pas toi? Tu as faim d'argent? Mange. Et puis on peut l'entendre peut-être aussi nous dire, tu as faim de tranquillité, de quiétude. Mais c'est légitime, mais c'est vrai que c'est légitime. Mais lui, ou plutôt que de nous orienter vers la source qui peut vraiment nous apaiser, il va nous orienter vers d'autres possibilités qui sont catastrophiques, qui peuvent être catastrophiques. Tu as faim? Tu as faim d'être tranquille de tous tes problèmes. Regarde cette bouteille, cette bonne bouteille sirote-là. Tu vas voir, tu vas te retrouver dans un état d'apaisement tel que tu voudras peut-être recommencer. Il y en a même une deuxième, t'en as eu une, plus une gratuite là. Ben, tu devrais aller faire un stock, comme ça. Et puis on rentre dans l'engrenage. Ou bien tu vois cette seringue, pourquoi est-ce que tu n'essayerais pas de te piquer? Et voilà comment on rentre dans des cercles vicieux. Comment on arrive à créer de la dépendance pour l'une envers l'une ou l'autre chose. Tu as faim, c'est normal. Tu as faim de passion, ben, c'est légitime de se reposer, de se détendre, de se distraire. Jean-Pierre, il aime bien d'aller pêcher. Pourquoi est-ce que tu n'irais pas avec lui ? Le dimanche, il paraît qu'on alimente les piscicultures, mais les étangs en poissons. Tu seras certain que ça mordra ce jour-là. Mais le dimanche matin, tu sais, le Seigneur, il est partout. Il n'est pas seulement qu'au temple, il n'est pas seulement qu'à l'église. Il est là aussi sur le lieu où tu es, le dimanche matin, sur le lieu de pêche. Là, il est là. Mais bien sûr. T'as envie de sortir le samedi soir, c'est normal, il faut en profiter. Tu es jeune, demain tu feras la grasse matinée, c'est dimanche matin. Tu as faim ? Mange. Tu as faim, tu as un gros, gros appétit sur le plan sexuel. C'est normal, tu as été créé comme ça. Regarde ta petite collègue qui est là. Elle semble triste. Si tu allais pour la consoler, peut-être que tu pourras envisager d'aller plus loin. Personne ne le saura. Tout le monde le fait. Tu as faim ? C'est normal. Mange. Le discours du diable n'a pas changé. Jésus eut faim. Le tentateur s'approcha de lui. Jésus sort une première fois l'épée et passe à l'offensive. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable, dans sa stratégie première, a tenté de semer le doute dans l'esprit de Jésus, comme il essaye de faire pareil avec nous. Dans sa deuxième stratégie, le diable va s'y prendre différemment. Et il va maintenant falsifier les Écritures. Il va tronquer les Écritures. Le diable, deuxième tentation, donc au verset 6, le diable le transporta dans la ville sainte, à Jérusalem, le plaça sur la terrasse du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera pour toi des ordres à ses saints anges, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Tiens, voilà maintenant le diable qui devient prédicateur. Il fait même semblant d'être du côté de Dieu en citant la Bible et en faisant allusion notamment au psaume 91, versets 11 et 12. Seulement, voilà, il ne le fait pas exactement. Il le fait de façon tronquée, en falsifiant la Bible et en la citant hors contexte. Il dit d'une part, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, tandis qu'au verset 11 du psaume 91, il est exactement dit, écrit, il ordonnera à ses anges de te garder dans tes voies. C'est pas exactement la même chose. C'est pas du tout la même chose même. Première erreur. Et d'autre part, le diable a soin de ne pas citer les versets suivants du psaume 91, les versets 13 et 14, qui nous disent ceci, « Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu piétineras le lionceau et le dragon. » Et c'est bien volontairement qu'il omet de mentionner ces versets-là, puisqu'il parle de sa défaite future que Jésus provoquera à la croix. De nos jours, comme déjà à l'époque de Jésus, le diable se déguise en prédicateur, cherchant sous le couvert de la Bible, de la parole de Dieu, mal interprétée ou falsifiée, de séduire un grand nombre. Il suffit de considérer le nombre de sectes qui pullulent et qui entraînent, qui séduisent nos contemporains. Qui entraînent nos contemporains dans leur filet. Parfois, même le diable introduit des idées tronquées de fausses doctrines dans l'Église. Et je me souviens, il y a une vingtaine d'années d'ici, il y avait un groupe de jeunes assez florissant, et un membre du groupe des jeunes, là, avait invité un prédicateur qu'il connaissait superficiellement. Il était venu et il avait mis l'accent à travers son message sur un point de doctrine à propos duquel on n'était pas d'accord. Et il avait insisté à un point tel que ça avait troublé plus d'un, ça avait déstabilisé certains dans leur foi. Alors on n'a pas eu l'occasion de parler avec ce prédicateur après parce qu'il est tout de suite reparti. Mais après, on a dû, dans la salle ici annexe, Gino était là. Où est-ce qu'il est, Gino ? Ah, il était là. Et on a dû remettre les choses au clair, on a dû clarifier certaines choses pour pouvoir apaiser l'esprit de ces jeunes. Un chrétien mal affermi que j'essayais d'encadrer a laissé rentrer chez lui de faux docteurs qui niait la divinité de Jésus-Christ. Et malheureusement, il a été séduit et il s'est égaré. La parole de Dieu falsifiée. Le diable est passé maître dans l'œuvre, dans la manière de falsifier les Écritures. Les Galates eux-mêmes avaient mal interprété la liberté dont ils jouissaient, dont ils bénéficiaient en Christ, en faisant de cette liberté un prétexte pour vivre en faisant n'importe quoi, dans la débauche. Et Paul doit les reprendre aussi dans Galates au chapitre 6, chapitre 5, verset 12. Frères, vous avez été appelés à la liberté, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. La mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Certains chrétiens sortent de leur contexte ces paroles de l'apôtre Paul, c'est un autre exemple, où il nous est dit en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, « Tout m'est permis. » Alors oui, sauf les choses pour lesquelles Dieu pose son veto, sauf les choses pour lesquelles Dieu montre clairement qu'il est contre. Tout m'est permis, et en plus de cela, certains chrétiens oublient de lire la suite du verset. C'est vrai qu'il ne nous faut pas vivre de façon légaliste en disant « tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela », bien que Dieu établit des règles dans sa parole qui, normalement, nous devons nous y soumettre. Mais certains chrétiens, pour en revenir à ce que je disais, omettent de lire la suite du verset « tout m'est permis, mais tout n'est pas utile » et surtout « tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit ». Donc je peux faire certaines choses. J'ai la liberté de faire certaines choses, mais ces choses ne deviendront pas mes maîtres. Je ne me laisserai pas dominer, je ne deviendrai pas l'esclave de ce que je peux faire, de ce que je peux réaliser. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. N'utilisons donc pas de façon erronée la Bible pour tenter de justifier un travers quelconque. Nous en arrivons à la troisième tentation, versets 7 et 8. Le diable le transporta encore sur une très haute montagne, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Cette fois, Satan montre à Jésus toutes les splendeurs du monde. Les royaumes humains, leur richesse, leur pouvoir, leur gloire. Le diable de dire à Jésus, tu vois, je suis le prince de ce monde. Toute cette gloire, toutes ces richesses, elles m'appartiennent. La veux-tu, cette gloire? Les veux-tu, ces richesses? Demande le diable à Jésus. C'est simple. Prosterne-toi devant moi. Donc il essaye de faire miroiter à Jésus, gloire, richesse et honneur. Il essaye de susciter dans le cœur de Jésus de l'orgueil. De l'orgueil. Pour, encore une fois, le détourner de sa mission. Jésus s'y oppose, bien sûr, en lui rétorquant, « Tu adoreras le Seigneur, lui seul, et tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Il refuse donc de céder à l'orgueil. Il sait d'autre part que le chemin qu'il doit emprunter, que le sentier qu'il doit suivre est l'humble chemin et l'humble voie qui le conduira à la croix, et ce n'est pas le sentier qui le conduira à la gloire éphémère terrestre. Et pourtant, combien ne nous laissons-nous pas malheureusement détourner par la voie de l'orgueil dans nos familles? On veut toujours avoir raison. Sur notre lieu de travail, on écrase les autres. Sur les réseaux sociaux. Et même dans l'Église. Souvenons-nous. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que l'orgueil précède la chute. C'est d'ailleurs l'orgueil qui a précipité la chute du diable, comme nous le savons. l'esprit de Diotref, qui voulait être le premier dans l'Église, qui voulait être le plus important dans l'Église, est toujours encore présent de nos jours. Prenons garde. L'orgueil. Le diable essaye, en semant le doute dans nos esprits, de nous faire tomber. Le diable essaye, en falsifiant les Écritures, de nous faire tomber. Le diable essaye, en suscitant en nous l'orgueil, aussi de nous faire tomber. Jésus sait que ce n'est pas facile lorsque nous sommes confrontés à la tentation. C'est dur, ça peut être pénible. Il y a un choix à faire, il y a un combat à mener. Et Jésus le sait, parce que lui-même a été confronté à toutes sortes de tentations. Il a été tenté en toutes choses, comme nous. Jésus sait ô combien le combat peut-être parfois être pénible, difficile, lourd. Et c'est la raison pour laquelle nous dit Hébreux chapitre 4, verset 15, qu'il nous comprend et qu'il compatit. Mais non seulement il nous comprend, mais Hébreux 12, verset 18, nous dit aussi qu'il est capable de nous secourir. Alors comment pratiquement, comment concrètement Jésus est capable de nous secourir à travers la tentation? Comment est-ce que Jésus est capable de nous sortir du piège tendu par l'oiseleur? Tout d'abord, par le moyen de la parole de Dieu. Aux trois flèches lancées par le diable, Jésus répond par trois coups d'épée. L'épée, on sait qu'elle représente la parole de Dieu. Trois citations du Deutéronome, chapitre 8, verset 3, chapitre 6, verset 16 et chapitre 6, verset 19, si je me souviens bien, pour la dernière référence. Jésus utilise donc la Bible pour repousser les assauts du diable. Et il est aussi important pour nous, pour nos âmes, que nous puissions nous nourrir de cette parole de Dieu, par la lecture, par la méditation. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. La nourriture matérielle est importante. La nourriture spirituelle l'est tout autant. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il nous montre par là que si on se laisse aller à l'anorexie spirituelle, c'est-à-dire que si on perd l'appétit pour la parole de Dieu, eh bien on risque tout simplement de tomber plus vite et plus facilement lorsque nous sommes tentés. Par contre, si nous nous nourrissons de cette parole de Dieu, le Saint-Esprit nous rappellera au moment opportun des versets clés qui nous permettront de repousser les attaques, les assauts, les tentations présentées par le diable. Nous pouvons, lors de la tentation, apprendre à répondre à l'ennemi comme Jésus l'a fait, finalement, en citant, en affirmant, en proclamant des versets de la parole de Dieu. Il est écrit. La Bible dit que. La parole de Dieu est puissante. Elle nous libère. Elle nous guérit. Elle nous transforme. Elle nous purifie. Elle nous sanctifie. Elle brise les liens de la tentation. Elle nous sanctifie aussi, comme je viens de le dire, Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Et le psalmiste David écrivait au psaume 119, verset 11, on connaît ce verset. « Je sers ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Si la parole de Dieu est vivante dans nos cœurs, elle nous éloignera du mal. « Je sers ta parole contre mon cœur. » Je la médite, je la fais mienne, je la lis, je la récite, je la mémorise. « Je sers ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et la deuxième arme que Jésus met à notre disposition après la parole de Dieu qui nous est donnée, c'est la résistance spirituelle. Alors, notre propre force, notre force de caractère, notre bonne volonté, notre détermination, notre obstination positive à repousser le mal est importante, c'est vrai, mais souvent elle est trop courte, elle est insuffisante. C'est la raison pour laquelle il nous faut une force supérieure, il nous faut une résistance supérieure. Et cette résistance supérieure, ben, Jésus l'a utilisée pour repousser les assauts du diable. Notre résistance personnelle est trop courte, est insuffisante. Jésus l'a bien dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'apôtre Paul l'a aussi dit, je fais des choses que je ne veux pas faire, et par contre, je ne fais pas les choses que je voudrais faire. On a besoin d'une force extérieure. On a besoin d'une puissance autre que notre propre volonté, autre que notre propre force, parce que tous ces éléments, et ils sont louables, ils sont importants aussi, mais ils sont insuffisants. Et Romains 8, verset 26 nous dit, c'est l'Esprit qui nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'ennemi connaît nos faiblesses, connaît nos points faibles, il nous fatigue, il nous décourage en revenant souvent à la charge à moult reprises, il l'a fait à 3 reprises avec Jésus, mais Jésus a résisté. Et Jésus veut aussi que nous résistions. C'est Jacques, dans le chapitre 4 de son épître au verset 7, qui nous dit « Résistez au diable ». Résistance spirituelle, et il fuira loin de vous. Jésus a résisté au diable, le diable s'en est allé. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mais où est-ce qu'on va puiser cette force? Où est-ce qu'on peut aller puiser cette résistance, cette puissance dans la résistance? Où peut-on aller puiser cette dynamique, cette puissance supérieure qui nous permettra de résister lorsque nous serons tentés? Eh bien, le livre des Chroniques, au chapitre, le premier livre des Chroniques, au chapitre 16, verset 27, nous dit « La force se trouve dans ton sanctuaire. La joie se trouve dans le sanctuaire. La force aussi se trouve dans le sanctuaire. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans les face-à-face que nous pouvons avoir avec Dieu. C'est dans les rencontres que nous avons avec Dieu. C'est à travers les rendez-vous que nous pouvons avoir avec Dieu que nous pouvons puiser cette force qui est indispensable pour que nous puissions refouler, rejeter, repousser les assauts de l'ennemi, ces tentations. Le troisième élément qui peut nous éviter de tomber dans la tentation, c'est lequel? Eh bien, c'est la prière. Comme Jésus nous l'enseigne dans la prière de Matthieu 6, le Notre Père, « Garde-moi, dit-il dans sa prière modèle, de céder à la tentation, mais au contraire, délivre-moi du tentateur. » Garde-moi de céder à la tentation, mais au contraire, délivre-moi du tentateur, car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles la puissance, la gloire et le règne. La prière. Quand Jésus se trouvait dans le jardin des Oliviers avec ses disciples, il dit ceci en Marc chapitre 14, verset 38, « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. » La prière. La prière indispensable pour que nous puissions aussi résister à la tentation, pour que nous puissions aussi repousser la tentation lorsqu'elle survient. La prière, souvent malheureusement négligée ou superficielle ou formaliste, eh bien, fait pourtant partie de la liste des armes que Dieu nous donne pour pouvoir pallier, pour pouvoir repousser les ruses de Satan, pour pouvoir tenir ferme contre les ruses de Satan. La prière. Faites en tout temps, nous dit Paul en Éphésiens 6, par l'Esprit, toutes sortes de prières. L'importance de la prière lorsque nous sommes dans tes conclusions. Jésus a résisté à la tentation. Alors on peut dire, oui, mais c'est Jésus. C'est vrai. Joseph, il a certainement commis des écarts, mais il a pourtant pu résister aux avances que lui a faites la femme de Potiphar. Il a résisté. David, qui était quelqu'un dont le cœur était selon Dieu, était un homme formidable, pris souvent en exemple comme roi d'Israël. Pourtant, lui, il a succombé à la tentation de prendre la femme, de prendre Bathsheba, la femme du riz. Il n'a pas résisté à la tentation. Quel choix faisons-nous lorsque nous sommes tentés? Quel choix allons-nous faire lorsque nous serons tentés la prochaine fois? La tentation n'est pas un péché, mais c'est un processus qui est conduit. C'est un processus qui conduit, qui peut conduire à la tentation. La tentation, elle fera partie de notre quotidien jusqu'à notre mort. On ne peut rien y faire. Elle est là. C'est Luther qui l'a dit, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut en tout cas les empêcher de venir nicher, de faire leur nid dans nos cheveux, sur nos cheveux. Et là, elle a un beau chignon, elle ne peut rien faire aux oiseaux qui lui tournent autour. Mais si jamais il y en a un qui lui prend l'idée de venir pondre dans son chignon, elle peut les chasser. On ne peut pas empêcher la tentation d'être là. Elle est là, c'est une réalité. Seulement, on peut apprendre à la repousser. On peut apprendre à chasser cette tentation. Alors, frères et sœurs, persévérons et poursuivons le bon combat. Et si malheureusement nous tombons, ne nous décourageons pas. Ne restons pas par terre, mais relevons-nous et repartons en nous appuyant toujours sur la grâce du Seigneur. Le Seigneur est grâce. Et comme le dit la parole de Dieu en Proverbes chapitre 24, verset 16, « Sept fois le juste tombe, mais sept fois il va se relever. » Alors que Dieu nous aide à continuer la route avec lui et à pouvoir saisir toutes les astuces nécessaires pour pouvoir repousser les assauts de l'ennemi lorsqu'il nous présente devant nous les tentations qui sont susceptibles de nous faire tomber.